Pendant la pause et qui vont effectivement un peu dans tous les sens. Donc, on va essayer ici de les regrouper autant que possible. Et je laisserai évidemment à chacun la parole de formuler le plus clairement possible sa question. Mais je pense qu'il y a de toute façon d'abord un premier groupe de questions assez, je dirais, pratiques, qui vise à un peu mieux comprendre comment ça se passe dans des mondes virtuels comme Second Life et ce qu'il représente aussi en termes de business. Alors, on a posé plusieurs questions, et là, ça va directement pour Pierre-François Dauquier, donc plusieurs questions là-dessus. Puis, toute une série de questions, évidemment, sur la responsabilité qu'on a abordée avec Jean-Michel, sur l'infantilisation, sur les limites, sur les frontières, liées à la responsabilité. Mais concentrons-nous peut-être d'abord sur des questions peut-être plus pratiques liées à cette réalité virtuelle. Donc, Pierre-François, il y a toute une série de questions sur, par exemple, les infrastructures qu'il y a dans ces mondes virtuels. Est-ce que, par exemple, quel type de service peut-on véritablement vendre ou acheter? Est-ce qu'il y a, par exemple, des GSM? Est-ce qu'il y a des services postaux, puisqu'il y en a plusieurs dans l'Assemblée qui viennent d'une telle société? Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus?
Et le timbre, t'as combien?
On peut envoyer des paquets?
Tout existe. Puisque l'idée de... Alors Second Life est quelque chose qui est très différent à ce niveau-là des jeux de rôle massivement multijoueurs en ligne. Dans World of Warcraft, dans EVE Online, vous avez un cadre qui est beaucoup plus précis. Dans Second Life, par contre, c'est l'Internet en trois dimensions. C'est un terrain vierge sur lequel vous créez tout ce que vous voulez, vous vendez tout ce que vous voulez comme service. Je pourrais donner quelques exemples. Le plus récent litige relatif à la protection de la propriété intellectuelle dans Second Life, c'est un litige qui oppose un fabricant de cheval à un fabricant de lapin, et ici il faut bien dire fabricant, et ces animaux virtuels ont une caractéristique commune, c'est qu'il faut les nourrir, et on les nourrit avec de la nourriture qu'il faut acheter, nourriture virtuelle. Et le modèle de programmation de l'un a été copié par l'autre, et il y avait donc un litige de propriété intellectuelle autour de cette nourriture virtuelle. Voilà pour un exemple de choses.
Mais le litige dans Second Life.
Alors le litige se déroule devant se déroulera, puisque c'est au stade précontentieux à l'heure actuelle, se déroulerait devant une juridiction américaine.
Réelle.
Oui. Alors, quant à la communication, puisque la poste, les services postaux vous intéressaient, il y a différents modes de communication entre avatars. C'est le chat public, hein, on écrit sur le clavier des choses qui sont audibles par toutes les personnes, les avatars qui se trouvent dans une proximité géographique, et vous mettez plein de guillemets, autant de guillemets que vous voulez autour de géographique. Mais ça veut dire qu'il y a un sens de la distance. Si je suis loin d'un avatar, je dois crier pour qu'il m'entende. Le logiciel permet de crier par écrit. Il y a aussi un service de chat privé c'est du chat alors entre un certain nombre de personnes, deux ou plusieurs, qui n'est pas alors accessible aux personnes qui ne participent pas à la conférence téléphonique. On peut aussi communiquer comme sur Skype, enfin il n'y a pas de webcam, l'avatar c'est masque.
Ah, oui.
Voilà. Et alors Dans la déréalisation ou l'éloignement entre le typiste et l'avatar, la dernière chose qui est en test, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier où ça en était, je ne l'ai jamais expérimenté, mais c'était la possibilité d'avoir des modules qui de voice morphing, donc qui déguisent votre voix. L'apparence physique d'un avatar, vous en faites absolument tout ce que vous voulez. C'est aussi la différence entre des logiciels de style Second Life et des choses où le cadre est plus précis, comme dans les jeux où vous choisissez d'être un magicien, un elfe, enfin, toutes ces choses évidentes. Dans l'avatar, vous choisissez entièrement votre apparence. Hein. Quand je disais que j'avais eu des conversations avec des canettes de coca, c'est vrai. C'est pas une canette, c'est un gobelet façon quick. Et ce gobelet avait une conversation extrêmement intéressante. Il y a des gens qui aiment bien prendre l'apparence de ce qu'on appelle dans Second Life les furries. Donc c'est des créatures, des animaux à fourrure. Donc il y a des lieux réservés pour les furries, loups, chiens, renards, etc.
Mais il y a aussi une vraie vie économique. Enfin, les vis a une business unit dans le monde réel qui s'occupe de la business unit Levi's du monde Second Life. Donc on peut aller acheter, votre avatar peut aller acheter un jeans Levi's Second Life. Ouais. Il y a des chasseurs d'data, surtout aux États-Unis, qui existent dans le monde réel, mais qui ont leur bureau chasseur d'data dans Second Life, parce qu'on peut être engagé comme coiffeur Second Life pour faire des coiffures Levi's. Et donc il y a des benchmarks salariaux Second Life, réellement. Donc un coiffeur, il y a quelques années, c'était 1700 linden par mois.
Aujourd'hui, je pense que ça existe un peu moins que ça a été dans toute la période où Second Life était vraiment dans la plus grande attention. La part des médias et la part de
nous.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a eu tout ça. Moi, j'ai acheté un amphithéâtre gallo-romain pour une centaine d'euros dans mon souvenir. Voilà. Alors, on s'est posé des questions dans le séminaire sur le droit et la gouvernance dans les mondes virtuels, de savoir comment est-ce qu'on pouvait confronter les conditions de travail et les salaires dans Second Life avec les lois sociales, toute la législation sociale. Ce qui, techniquement, poser des questions de savoir la loi de quel pays il fallait appliquer, et puis aussi de voir est-ce qu'on doit payer un salaire minimum à quelqu'un qui bosse en s'amusant quelque part.
C'est la terminologie qu'on utilise. On parle d'un monde virtuel et on parle du réel. Et pour moi, je peux faire une distinction, je crois qu'il y a plus anglo-saxon, qui est le monde online et le reste. Parce que si on dit virtuel et réel, c'est comme si le virtuel n'était pas réel. Et en fait, la réalité se trouve partout. Mm-hmm. Et je crois que dans l'esprit des gens, le fait d'avoir du virtuel, c'est comme si ce n'était pas la réalité. Pour moi, ce n'est pas le cas. Si on joue un jeu de Monopoly, c'est une réalité. Ça peut être virtuel. C'est virtuel par rapport à quelque chose, mais c'est une réalité. Donc, si on utilisait un mot comme en ligne, même si cette ligne-là est virtuelle, si je peux dire, je crois qu'on éviterait parfois
des confusions.
Une réaction sur ça, il y a un auteur américain qui propose le terme de monde synthétique pour désigner les univers virtuels. Moi, je dis monde virtuel, je dis univers virtuel, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, mais c'est vrai que le vocabulaire prête à confusion. Juste un dernier exemple de chose qui m'a paru assez stupéfiante la première fois que j'y ai participé, c'est la première fois que mon avatar a été assisté a été regarder la télévision dans Second Life. Donc on achète une télévision qui permet de voir quoi ? Qui permet de voir des émissions. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas des shows télé du monde réel. À nouveau, je m'excuse pour le vocabulaire, mais ce sont des émissions où on voit des avatars. Il y a par exemple un des lieux les plus intéressants de discussion sur Second Life et sur l'évolution des technologies synthétiques aujourd'hui. C'est un talk show qui s'appelle Metanomics. Metanomics.net, vous trouverez toutes les archives en ligne. Et ce sont des avatars qui causent avec des avatars, et c'est filmé, et on peut assister à ça, enfin son avatar peut assister à ça sur l'écran d'une télévision dans une maison, dans ce même lieu. C'est assez stupéfiant.
Retour au sujet de la communication, vous dites que je peux parler en public ou en privé, je peux crier. Alors, au-delà de crier, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé un système de mobilophone sur Second Life où vous pouvez you can dial up someone who is somewhere else on another planet?
Du moment que l'autre planète est aussi dans Second Life, oui. Yeah. Et ça, le message,
ça existe.
Le système de chat privé n'exige pas que les interlocuteurs soient en présence, si j'ose dire, physique. Si vous êtes au bord d'une plage agréable quelque part dans Second Life, vous pouvez avoir une conversation vocale ou une conversation par écrit avec n'importe quel avatar.
Est-ce que je peux envoyer des cadeaux?
Bien sûr. Oui. Et ces cadeaux.
Il y a e-commerce sur Second Life.
À une époque, et je ne sais pas si ça existe encore, on pouvait acheter des chansons, donc des fichiers MP3, via l'interface de Second Life. Donc votre avatar se rendait dans chez un disquaire virtuel, un disquaire synthétique, prenait un CD, il y avait l'interface de paiement qui débitait votre compte du coup du MP3, et puis vous récupériez le MP3 sur votre disque dur.
Toutes ces questions amènent deux questions qui ont été posées. C'est, bon, quel type de business se développe-t-il véritablement dans ces mondes virtuels ? Quelles sont les potentialités en termes de business dans ces mondes ? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas, pour l'instant, après une mode et un hype pendant quelques années, est-ce qu'il n'y a pas pour l'instant une sorte de
lassitude.
Est-ce que, donc, quel est le futur véritable, y compris en termes business, de ces mondes?
On en parlait pendant la pause. Je vais prendre d'abord cette question-là. Il y a eu des antécédents à Second Life. Il y a par exemple les Sims Online. Hein, donc la simulation de la vie existait en jeu. Désolé.
SimCity.
Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui s'appelait les Sims Online, qui était un monde très actif, qui s'est éteint de sa mort naturelle en quelque sorte en 2008 parce que tous les utilisateurs étaient partis vers Second Life. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus dans le hype de 2006-2007, mais de nouveaux logiciels apparaissent. Il y a un truc qui s'appelle Blue Mars qui est en train de se développer et il semble qu'une partie de la communauté Second Life soit en train de migrer vers Blue Mars. Donc, j'ai le sentiment, pour ce que je lis, pour ce que je suis un peu de ce secteur, qu'il y a quelque chose qui est expérimental et qui est exploré sous différentes formes, qui n'a plus la capacité à capter la même attention médiatique qu'auparavant, mais qui continue à se développer. Par ailleurs, la société Linden Lab a connu des difficultés. Ils ont changé deux fois de directeur sur les derniers mois. Ils ont dû se défaire d'une partie importante de leur personnel. Mais ils continuent à développer leur logiciel, le produit s'améliore et il y a encore une communauté d'utilisateurs qui est là. Donc, je ne vais certainement pas faire de prédiction, parce que je me souviens avoir lu une prophétie qui annonçait que en 2011, 80% des internautes utiliseraient quotidiennement un avatar. C'était peut-être la fin de l'année 2011, on verra. Mais enfin, je ne suis pas sûr que la prophétie se vérifiera dans quelques mois, donc il faut être assez prudent. Je pense qu'on est dans un stade où il n'y a plus l'enchantement, mais où on explore les usages qui sont réellement efficaces. Et à ce niveau-là, je vois beaucoup, mais c'est plus mon secteur, d'expérience d'enseignement. Donc pour tenir des séminaires rassemblant des participants du monde entier, quand il y a des besoins de modéliser des projets architecturaux, par exemple, il y a un site qui est spécialisé sur l'étude, l'analyse des projets architecturaux qui ont commencé dans Second Life et qui ont ensuite été réellement construits quelque part.
C'est coté en bourse ?
Non.
J'ai cru lire qu'il l'envisageait.
Pas encore.
Voilà, c'est ça. J'ai cru lire qu'il l'envisageait.
Pas encore.
C'est quelque chose qui s'est aussi développé de manière un peu accidentelle, en fait. Tout d'un coup, ils étaient sur l'étude de la technologie virtuelle, ils ont eu besoin d'un terrain pour tester certains softwares, et puis ils se sont rendus compte que ce terrain de test devenait très intéressant, et que s'ils l'ouvraient à la participation des utilisateurs, ils pouvaient créer une sorte de communauté. Le fondateur de la boîte, Philippe Rosedé, l'a côté aussi un peu visionnaire, il avait annoncé créer un nouvel État, une nouvelle nationalité, un nouveau monde libre, qui, voilà, fait un peu partie de la mythologie de l'Internet, la mythologie des nouvelles technologies.
Et il y a des sources virtuelles ou parce qu'on parle de virtuelles ?
Il y en a eu. Ça n'a pas vraiment décollé.
C'est trop. C'est comme la monnaie qui est dans
les mains. Les enjeux politiques d'éducation ?
L'éducation, alors, le commerce de vêtements pour avatars, d'accessoires pour avatars continue à exister. Maintenant, voilà, il y a eu des cabinets d'avocats qui ont proposé des consultations dans Second Life. Il y a eu vous le disiez tout à l'heure, des psychiatres aussi qui ont ouvert des cabinets de consultation. Tout est possible, vraiment, c'est l'imagination et l'envie d'expérimenter qui règne vraiment.
Et quand on veut créer un nouveau service ou un nouveau produit, est-ce qu'on doit programmer, enfin, comment est-ce qu'on fait ça? Et qui est, lorsque vous avez parlé de ligne de code, certainement qui est propriétaire, est-ce que, comment est-ce qu'on crée un nouveau service dans ces codes-là? Et est-ce qu'on doit vraiment coder en leur propriétaire éventuellement de ce code ou quoi?
La question, la réponse n'existe pas. La réponse est virtuelle. Si vous voulez juste vous balader dans Second Life, profiter du décor, faire des achats, etc., vous avez simplement besoin d'un avatar et l'abonnement est gratuit. Vous devez vous enregistrer, vous créer votre avatar, etc. Vous baladez à votre aise. Si vous voulez créer des objets, il y a des zones où il est permis de créer des objets. C'est chaque propriétaire d'une zone qui décide de ce que les avatars peuvent y faire ou pas. Si vous voulez doter votre objet de propriétés lui permettant d'interagir avec l'univers de Second Life, il faut effectivement passer par de la programmation. Il y a un langage de script qui est propre à Second Life, qu'on dit facile à apprendre. Moi, j'ai un peu peur de la programmation, j'y ai jamais touché, donc je ne souhaitais pas vous en dire beaucoup plus. Alors, il y aura certainement une revendication légitime de propriété intellectuelle sur le code. Hein. C'est la situation de cette nourriture virtuelle pour les lapins et pour les chevaux dont je parlais à l'instant. C'est le code, ce qu'on protégera par la propriété intellectuelle, c'est le code qui permet de faire que si vos animaux ne sont pas nourris, ils ne seront pas en bonne santé, et que si vous leur donnez cette nourriture virtuelle, au contraire, ils se maintiendront en bonne santé. Donc là, il y a des revendications qui font sens juridiquement, mais qui n'ont pas encore été reconnues par les tribunaux.
Est-ce que moi, ça me choque. Enfin, ça me choque. C'est pas évident, je trouve, que ça se passe dans un tribunal réel, cette histoire. Est-ce que ça va de soi qu'on doit prendre ça tellement au sérieux, je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas en quoi les droits des gens dans le monde synthétique s'imposent dans les tribunaux réels. Je ne vois pas par quel mécanisme.
Il y a eu, je le disais tout à l'heure, des tentatives, des réflexions, des pistes d'exploration pour créer des juridictions propres à Second Life.
Oui, mais dans le monde réel.
Non, qui étaient alors jeu. Là, c'était des avatars. Le terme jeu, Second Life n'est pas vraiment un jeu, c'est une plateforme de communication, vraiment. Il y a des espaces de jeu dans Second Life, mais il y a toutes sortes de choses. Ces tentatives-là ont existé et n'ont pas abouti.
Et vous trouvez normal qu'on reprenne ça dans le monde réel, sans discuter?
Écoutez, moi j'ai été avocat au début de ma vie professionnelle, c'est à partir du moment où on vient me consulter et on me dit j'ai un problème, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais, dans cette infrastructure logicielle, j'avais créé, il y a eu à un moment des casinos par exemple. Donc des gens avaient programmé des machines à sous, avaient développé des espaces de jeux, etc. Et puis Linden Labs s'est rendu compte un beau matin que la législation californienne, dans leur interprétation en tout cas, ça a été controversé sur le point du droit en lui-même, mais dans leur interprétation, la législation californienne, c'est une boîte californienne, leur interdisait de faire des jeux d'argent en ligne. Donc ils ont supprimé les casinos. Mais donc il y avait un certain nombre de personnes qui avaient investi des heures de travail dans la programmation de ces lieux et qui en retiraient un revenu de 1 500-2 000 euros chaque mois. Et donc tout d'un coup, votre gagne-pain était volatilisé.
Non, mais là, le vol,
s'il vous reste un peu d'économie, vous allez voir un avocat et vous dites je veux récupérer mon bien.
C'est différent de deux personnes qui se battent sur une nourriture synthétique, un logiciel synthétique et tout ça, et puis qui vont régler leur compte dans le monde réel. C'est ça qui est bizarre.
Il y a du temps réel qui est sur le syntaxe.
C'est ce que tu disais tout à l'heure.
C'est que nous sommes trop vieux pour mes enfants. L'Internet est beaucoup plus réel que la réalité. Et donc, il faut arrêter, si nous voulons rester jeunes, de parler du monde virtuel. C'est un monde parallèle, c'est un monde online vis-à-vis offline, mais avec la même réalité ou la densité de réalité que le monde que nous avons vécu.
Cette dernière assertion.
Est-ce que juste un autre exemple qui est moins directement lié à la propriété c'est la question de la réputation. Il y a un très bel article dans une revue de droit américaine qui est « Est-ce qu'on va protéger la réputation d'un avatar ?» Eh bien oui, bien entendu. Si vous êtes vous faites partie d'une communauté, vous avez tout un lien, toute une quantité impressionnante de liens sociaux, vous avez une réputation dans une communauté, c'est quelque chose qui est juridiquement protégé comme... comme une expression, une dimension de la réputation du tapis de la personne.
Mais je pense que les discussions qu'on vient d'avoir là maintenant, au-delà des aspects business, effectivement, induisent des questions fortes, et je pense que peut-être Jean-Michel peut en dire un mot, sur la question des distinctions entre les différentes catégories. Nicole, tu veux peut-être exprimer ce que tu voulais dire, mais aussi sur la question des limites, des frontières, etc. Donc plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions parce que effectivement, et ça rejoint la question ou la remarque de Jean-Christophe, c'est comment faire pour appréhender ces mondes, quelle distinction est-ce que cela implique en termes de catégorie mentale. Voilà, peut-être Nicole, tu veux peut-être formuler ce que tu voulais.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que un peu comme Donna Haraway la première avec son cyborg montrait qu'il y a une continuité humain-animal. On est dans une continuité nature-culture, Bruno Latour. Donc, ce qu'on avait l'habitude de distinguer et qui nous aidait à penser, maintenant se confond, virtuel-réel, enfin, ou synthétique, biologique. Donc, tout ça est seamless, pour prendre les pubs dans les aéroports avec le bas et nylon. Mais, or, pour penser, on a besoin de catégories. Donc, on se rend compte que les catégories qui nous servaient de repères avant ne sont plus les bonnes, mais je crois qu'on en continue à avoir besoin de catégories pour penser. Donc, quelles sont les catégories qui vont être robustes par rapport à cette nouvelle réalité, cette réalité incluant tout le monde dans lequel on est plongé. C'était une question que... Oui, c'était ça la question.
Oui, je pense, tout à fait.
Jean-Michel. Oui, non, je crois que c'est une bonne question, la question des catégories, parce que c'est vrai que traditionnellement, on découpait notre monde, notre perception du monde, grâce à ces catégories. Les botanistes, les zoologistes étaient des modèles, parce que précisément, ils nous permettaient d'identifier dans la réalité des degrés, des distinctions, des hiérarchies, des valeurs, etc. Bon, et aujourd'hui, donc, on se plaît à dire qu'il n'y a plus besoin de ces catégories, que ces catégories sont même des limitations. C'est pour ça que Donna Haraway, que les féministes américaines se sont réjouies bougrement de voir que les technologies allaient permettre de supprimer la distinction des genres, ou en tout cas de les transformer uniquement en construction sociale, etc. Et bon, on peut dire que la réalité qui nous est proposée par le cyberespace, bon, nous défie de trouver les éléments qui nous permettent de découper cette réalité. Hein, parce que pour l'océan d'informations qui nous submerge, il faut bien qu'on y mette de l'ordre et qu'on trouve des principes de classification, d'hiérarchisation, etc. L'accès à la connaissance nous impose de renouer avec la question des catégories. Alors donc, votre question, elle est vraiment tout à fait pertinente. Quel type de catégorie est-ce qu'on va remettre en évidence, en opération, et bon, c'est vraiment la question de la gestion des connaissances.
Oui. Parce que sur les limites, je voulais juste ajouter, c'est une question que je vous posais à vous sur votre réaction, parce que vous avez en même temps cité Jonas et son sens de la responsabilité, et en même temps après cette phrase très juste, toute responsabilité suppose limites et frontières. Mm-hmm. Et le problème que j'ai avec la vision de la responsabilité de Jonas, c'est justement c'est une vision où il n'intègre absolument pas ce qui sont limites et frontières, et pour moi, il aimerait être responsable de cette terre, mais c'est la terre qui s'occupe de nous et pas l'inverse, qu'on le veuille ou non. Et donc, il y a vraiment un renversement de perspective, un espèce de volonté de superpuissance. S'il avait un monde virtuel, peut-être qu'il aurait été content. Mais sens de responsabilité, il y a parfois un côté un peu... C'est comme les enfants qui se sentent responsables de leurs parents, vous voyez. C'est vraiment un renversement de perspective.
Hier, j'ai évoqué Jonas et j'ai évoqué la critique que Ricoeur lui faisait en disant... À vouloir être responsable de tout, on est responsable de rien.
Voilà, c'est évident. Voilà, c'est ça.
Donc là aussi, il faut avoir.
Et que ça, je dirais que cette énergie-là, quand elle s'épuise dans les mondes synthétiques et tout ça, je ne sais pas si jamais c'était une question, ou si c'est ou pas, j'en sais rien, mais que je voulais juste amener la question du,
justement homme-femme, mais pas dans le sens où ça n'a plus aucun sens, c'est que pour nous les femmes, si quelque part ces mondes virtuels permettent aux hommes d'aller éponger tout le surplus qui ne parviennent pas à... Si une fois qu'on a tout, on va continuer à s'enrichir et tout dans ce monde-là, ça crée un peu de la place, vous voyez, dans le monde réel, d'avoir tous ces fantasmes qui se gèrent ailleurs. Et donc moi, je serais pour... Je trouve très bien qu'on s'épuise dans ces mondes pour retrouver un tout petit peu de... un peu d'air, si vous voyez ce que je veux dire. Donc allez-y dans le monde virtuel et
vivez les femmes
dans le monde virtuel.
J'ai dit que le monde virtuel est
plus masculin. Parce qu'on l'imaginait, la toute puissance, c'est quand même un imaginaire masculin.
Mais ça, c'était le rôle de la science-fiction, précisément.
Oui, justement.
Parce que le monde trouvé,
c'est
la époque.
Ça vous
dirait
que les femmes n'ont pas de fantasme?
Attends, non, mais
j'ai pas dit ça.
Elles n'ont pas les mêmes fantasmes.
Attendez, on va sortir un moment des fantasmes.
Revenons sur Terre. Tout ça mène, cette question des limites, mène à une autre question qui a été souvent posée par plusieurs d'entre vous.
On l'a pas résolu. Hein,
on l'a pas du tout résolu. Je pense que
vous voulez vous faire une autre réponse.
Oui, peut-être.
En rebondissant sur la remarque de monsieur qui s'offusque, considérait que les deux termes virtuel et réel puissent encore être opposés. C'est ce que je vous avais dit. Or, bon, ça me paraît effectivement très très significatif votre réaction. De cette impatience par rapport aux limites et aux catégories que vous exprimez. De même que vous, monsieur à côté, si on veut encore être jeune, donc ce jeunisme est également très, très symptomatique aujourd'hui de cette impatience à l'égard de ces oppositions. Moi, je ne sais pas, il y avait quand même... je vais parler peut-être en termes de philosophie, mais il y avait un grand principe dans la philosophie kantienne, vous savez, la philosophie critique, ça veut dire séparation. La philosophie kantienne est une philosophie qui était explicitement dirigée vers la défense des limites, des bornes à donner aux différents degrés de la réalité. Et ce qu'a fait Kant à un moment donné, c'est de procéder à ce qu'on a appelé la critique de l'argument ontologique. L'argument ontologique, qu'est-ce que c'était ? C'était, pour lui, la source de toutes les métaphysiques, et notamment des métaphysiques médiévales, qui reposaient sur le raisonnement suivant. Nous avons dans la tête le concept de Dieu. Ce concept de Dieu, il a comme propriété la perfection. Or, la perfection suppose forcément l'existence, donc Dieu existe. Passe donc du concept de Dieu à la réalité de Dieu. Et Kant dit, ça n'est pas légitime. Ça n'est assurément pas légitime, et c'est la cause précisément de la confusion entre la science et la métaphysique, et c'est la confusion qui conduit au mysticisme, au fanatisme, etc. Et donc toute sa philosophie va consister ensuite à démontrer qu'il y a une délimitation à faire entre le concept, qui est de l'ordre du virtuel, on dirait donc aujourd'hui, et le réel, qui, lui, est catégorisable, justement, et susceptible de se voir assigner des propriétés de spatio-temporelles, etc., etc. Et il avait une belle expression pour dire cela, il dit, croyez-vous qu'il y ait plus de réalité dans 100 euros, c'est pas des euros qu'il évoquait évidemment, entre 100 euros virtuels ou 100 euros réels? Où y a-t-il le plus de réalité? Bien évidemment, bon... C'était une manière un peu imagée de dire que le passage du virtuel au réel, non seulement est-il légitime, mais n'est pas du tout non plus engageant et bénéfique. Alors, bon, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, effectivement, à cette espèce de d'impatience à l'égard de ces séparations que l'on perçoit, dans le meilleur des cas, comme une espèce de pesanteur, d'inertie, et dans le pire des cas, comme ce précisément qu'il faut outrepasser, mais bon, au prix d'une fantasmatisation, au prix de... Oui, je sais bien, vous allez répondre, mais...
Moi, je comprends. Oui.
Vous comprenez pas?
Moi, je crois que les distinctions sont très importantes.
Oui,
mon point était que,
en utilisant un mot comme le mot virtuel, c'est qu'il nous permet pas d'appréhender la réalité dont on parle pour ce qu'elle est.
Je suis pas sûr.
C'est très très important. Parce que pour moi, le virtuel, vous le vivez dans votre monde réel. Si demain vous décidez de jouer au Monopoly, vous êtes, d'après votre définition, sans doute, ou notre définition, dans un monde virtuel, puisque c'est une représentation de la réalité.
Vous n'avez pas gagné des millions. Hein.
Alors pour moi, qu'est-ce qui distingue essentiellement le monde virtuel qu'on appelle virtuel du monde réel que vous appelez réel, c'est qu'il est synthétisé. J'ai très bien apprécié la réponse, parce que c'est ça qui caractérise l'environnement dans lequel on se trouve et qui fait qu'il est différent de l'environnement physique aujourd'hui.
Oui, donc finalement, vous êtes
et
d'accord.
La façon dont moi j'ai entendu entre réalité et virtuelle, c'était entre la réalité et le fantasme, comme s'il y avait encore une distinction à faire entre les deux.
Il y a une distinction à faire entre réalité et fantasme.
Si je puis ajouter, ce que vous dites, c'est qu'il y a la réalité et le virtuel. Ce sont deux mondes. Et ce que monsieur dit, à mon avis, c'est que non, c'est comme de la monnaie, ce sont devenus deux moitiés de notre monde. C'est ça la différence. Et si nous ne parvenons pas à exprimer ce nouvelle image du monde, on ne sera jamais capable de le saisir et de créer.
Mais la construction.
Et je veux simplement terminer par ce que vous avez dit, Kant qui disait qu'est-ce qui est plus valable ?
Qu'est-ce qui est plus réel ?
Sans Deutsche Mark. Sans euros, réel ou virtuel. Je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus réel, hein? 100 Linden dollars ou 100 dollars américains?
Au taux de change, je prendrais les 100 dollars américains. Mais
uniquement
parce que c'est
une chance. Puisqu'ils sont convertibles.
Oui.
C'est comme les jeux de langage de Wittgenstein et tout ça, c'est l'image canard lapin ou quoi. Je crois qu'on doit être d'accord qu'on a là une réalité et qu'on choisit des distinctions et des catégories, pas nécessairement des hiérarchisations, simplement des distinctions qui peuvent être différentes et qu'on doit adapter au regard et à l'analyse qu'on a envie d'en faire.
Je retiens qu'il n'y a plus de différence entre la réalité et le fantasme. C'est le problème.
Le psychiatre, la vie sociale.
Je te posais la question de savoir où à partir de quand on fait la distinction. Mais je poussais
le bouchon un peu.
On passe à l'acte.
Ça mène à un autre type de distinction qui est très, très réel pour le coup. Hier, Jean-Michel, tu évoquais Facebook. Le patron de Facebook dit la notion de vie privée n'a plus aucun sens. Bon, évidemment, il prêche pour le coup pour sa chapelle, probablement, mais c'est quand même symptomatique et ça mène à une autre question qui a été posée plusieurs fois, c'est les relations entre Facebook et ces mondes virtuels. Dans quelle mesure est-ce que la fin du hype de ces mondes virtuels n'est pas concomitante avec l'explosion de Facebook qui mélange peut-être un peu mieux encore la réalité, le virtuel, le monde de synthèse et le monde réel. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à comprendre?
Facebook a commencé à exploser quand la hype, pour moi, de Second Life s'est terminée. C'est là que...
Pour
moi, c'est plus ce que je vois les écosystèmes sur la date de demain, c'est des choses comme Facebook, Twitter, davantage que Second Life, qui pour moi va appartenir... J'ai aucun avis sur Second Life. Enfin, je ne vois pas ces communautés encore exposées aux
États-Unis. Et ce qu'on voit apparaître, c'est le jeu qu'on avait dans Second Life est transféré dans le social gaming de Facebook.
Oui, Facebook
est la plateforme. Oui, voilà, c'est ça.
Tu peux expliquer le social gaming?
Le social gaming, il y a d'autres sortes. Il y a vraiment... vous pouvez avoir un café virtuel, vous pouvez avoir une ferme virtuelle. Demander, en fait, vous ne pouvez réussir que si vous créez des collaborations. Et donc, essayez d'avoir des voisins, essayez d'avoir des visiteurs qui viennent manger dans votre café, et vous devez entretenir les questions que vous lancez. Plus vous avez le café, plus vous jouez, plus vous avez de consommateurs. Plus vous êtes consommateur, plus vous avez accès à des recettes élaborées. Plus vous avez des recettes élaborées, plus vous pouvez acheter des tables, vous avez de l'argent pour acheter des tables. Ça, c'était le premier boom du social gaming, et on voit maintenant du social gaming à responsabilité sociétale qui est en train d'arriver. ou plutôt qu'elle jouait bêtement et passait du temps à cuisiner, mais vous cuisinez pour des ONG, donc vous allez créer... On peut, soit vous passez du temps, et donc là vous allez générer de l'argent virtuel pour acheter de la nourriture, pour acheter des assiettes, etc. Soit vous n'avez pas beaucoup de temps à passer là-dessus, et vous allez, avec votre carte de crédit, acheter en transformant des euros en argent virtuel. Eh bien, le social gaming à responsabilité sociétale vous permet en fait de réinvestir l'argent que vous générez, les bénéfices que vous générez, au profit d'ONG. Et il se charge de retransformer l'argent virtuel en argent réel, mais où vous êtes assuré que le temps que vous passez part dans des ONG. Et vous choisissez le type d'ONG que vous avez envie de soutenir. Donc vous vous amusez et en même temps vous faites œuvre de responsabilité sociétale. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a j'ai un copain qui est en train de créer ça, ça s'appelle Sushi Games. Donc c'est des bêtes jeux de sociétaux. Vous visitez des mondes virtuels, etc. Mais pas du tout comme Second Life, c'est beaucoup plus enfantin. Mais par contre, vous pouvez effectivement décider de sponsoriser tel ou tel ou tel ONG.
En fait, ça pose quand même la question que je voudrais savoir où s'échangent ces dollars numériques
J'achète, je mets ma carte de crédit et j'achète de l'argent
virtuel. Ah, ouais, donc c'est par le.
Ah oui, c'est online. Ouais. Comme tu achètes.
Mais c'est dans l'autre sens, c'est moins facile à
faire. Et alors, dans l'autre sens, là, il y a une charge de responsable. Enfin, il y a un engagement de Sushi Games de nous dire on va pas faire du business sur votre dos. Vraiment, l'argent, quand vous décidez de l'investir dans une ONG, eh bien, on retransforme ça. Soit tu payes parce que tu n'as pas le temps de passer des heures et des heures, ou tu es chez un employeur qui va te permettre d'être sur Facebook, mais pas sur le social gaming de Facebook. Donc, c'est le cas chez moi, donc j'avais ma cuisine qui était une catastrophe parce que j'arrivais le soir chez moi, mais mes plats étaient pourris parce qu'on a un temps de réaction. Quoi. Donc il fallait que je calcule le temps de cuisson par rapport à mon temps passé au boulot.
Une conversation à la fois.
Mais moi, quand tes enfants sont petits, je suis tout seul, donc fatalement, bah, moi ça m'occupe. J'ai un zoo, enfin j'avais un zoo, j'avais un aquarium, j'avais un café, mais ça m'occupe.
Il y en a d'autres qui ont un nounours, mais en fait. Si je comprends bien, l'argent qui circule dans ce monde numérique ou systémique, c'est de l'argent qui vient de notre monde économique. Oui. Via la carte de crédit qui entre dans un monde et puis qui ressort. Il n'y a pas création d'un nouvel argent. Sinon, attention, la
création. Il y a création d'un nouvel argent.
Les banques aujourd'hui créent de la monnaie. Mais parce que tu donnes en tant qu'utilisateur l'autorisation.
Il y a de l'argent qui entre par la carte de crédit du joueur. Je dis, bon, je me connais. Je mets ma carte de crédit. Et il paye du jeu. Mais il va peut-être le perdre, oui, mais un autre va le gagner.
Non.
Il va aller chez un autre. Ne serait-ce qu'à une ONG. À une ONG pour laquelle il aurait accepté.
Par exemple. Mais aussi à ceux qui ont développé le programme pour ce monde virtuel existe.
Oui, mais il n'y a pas création d'un nouvel argent. Il n'y a pas augmentation de la masse monétaire en circulation.
Il y a transfert.
Uniquement transfert.
Mais comment, comme utilisateur de ce jeu, je récupère mon argent? Ça, je comprends.
Jamais.
Mais comment je fais pour le donner à une ONG?
Tu décides, quand tu t'inscris sur ce jeu, si tu veux, tu sais que Sushi Games a des accords avec tel et
Et comment sous-chiguer? Ah, d'accord. Donc, c'est sous-chiguer par son business model qui est quand même dans le monde réel. Qui alors?
Mais tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent. Si tu ne dépenses pas de l'argent, tu peux dépenser du temps. Ça dépend. Voilà. Tu peux dépenser les deux. Ça dépend.
Mais ton temps est valable.
Parce que billet, tu n'es pas mis deux. Donc, tu prends le temps de visiter les mondes et donc tu as des petits jeux assez idiots et ça prend du temps pour jouer. Mais donc, tu vas acquérir des points. Les points vont se transformer en argent et l'argent va être reversé. Ouais.
Ou par la vente des gâteaux cuisinés.
Ouais. Oui, ça, c'est, enfin, c'est pas le cas.
C'est comme ça que ça pourrait fonctionner.
Mais ça mène à une autre question qui a été posée par plusieurs. C'était de savoir le rôle des émotions dans ces mondes virtuels. Est-ce qu'il peut y avoir des émotions, des relations émotives? Tu disais, Laurence, que tu faisais ça, c'était rigolo, tu étais avec du contact. Est-ce que, jusqu'où va-t-on dans l'émotivité dans ces mondes-là? Et c'est une question importante par rapport à la question de la responsabilité. Est-ce que, parce que tu le disais tout à l'heure, Jean-Michel, quelque part dans la relation responsable, il doit y avoir une volonté de protection éventuellement, de prendre soin. Donc comment ces notions prendre soin, par exemple, peuvent exister ou prendre forme dans les mondes virtuels? Toi, tu les connais un peu. François, qu'est-ce que tu dis là-dessus?
Sur ce genre de questions, j'ai tendance à revenir à une vieille technologie qu'on appelle le livre. Quand on lit un bouquin, quand on lit une histoire, on va ressentir des émotions. Il y a toute une dimension imaginaire de la lecture qui est très très forte. Et c'est pas très différent quand on se balade dans un monde virtuel. On est dans de l'imaginaire, on est dans des émotions. Les gens qui sont pris dans une quête dans World of Warcraft, qui sont en pleine bagarre, sont dans le même état d'excitation que tu pourrais l'être en lisant un bon bouquin d'aventure. Sur l'aspect relationnel, un coup de fil, même par téléphone fixe, ceux qui ont encore des lignes fixes, ça peut être un véhicule de beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça peut être un véhicule, une manière de prendre soin de quelqu'un. Je t'appelle pour prendre un peu des nouvelles. Ce qui se passe avec les univers virtuels, c'est une nouvelle manière de communiquer, c'est une infrastructure de communication, et donc il y a toute la puissance de l'imaginaire, toute la force des émotions qui sont extrêmement présentes. Elles sont tout aussi présentes que dans toutes les activités de la vie.
Mais est-ce qu'elles ne sont pas plus justement décuplées? Puisque je vais avoir un monde en 3D qui va m'aider à prendre corps à mon imaginaire, qui va me plonger dans ce monde de façon telle que je ne verrai peut-être plus bien la différence entre ce qui m'arrive là sur l'écran et ce que je vis dans ma vie réelle, puisque la réalité n'est jamais que la réalité présentée.
Il y a une voracité, hein,
ça, ce point-là, cette idée que les mondes virtuels augmentent nos émotions, notre vie, etc. Ça, c'est un point que tu as très bien évoqué, me semble-t-il, Jean-Michel. C'est de dire, c'est bizarre qu'on le présente comme ça. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est désenchanté du monde, entre guillemets, réel, en tout cas physique, que nous vivons? Et ça fait écho à une émission que je viens d'entendre de Bernard Stiegler, qui disait que c'est le propre précisément de nos sociétés consuméristes qui doivent constamment émousser les émotions, nous faire sentir qu'on peut vivre plus, mieux, au travers de tel ou tel nouveau produit ou service. Et on peut se demander donc dans quelle mesure ces mondes ne sont pas la continuation d'une autre façon de ce mode consumériste dans lequel nous baignons de plus en plus.
Oui, je voulais dire quelque chose là-dessus. C'est sûr que d'abord, peut-être bien, mais ça fait moins mal à la nature, justement, donc pourquoi pas. Non, mais c'est vrai. Et alors, l'autre chose, c'est qu'il faut avoir un regard, je trouve, ni enchanté, ni désespéré. C'est une réalité. Et que je fais complètement. Je suis sûre qu'à un moment donné, t'en as marre du temps que ça prend de tes cuisines virtuelles et tu trouves plus sympa d'aller au café du coin et tu iras. Et c'est juste que chacun a son rythme par rapport à ça et qu'il n'y a pas une espèce de hype collective. Voilà, donc moi je trouve ni enchanté ni désespéré, mais un regard séculaire sur une réalité. Et il n'y a pas de raison de la bannir en bloc, ni de l'admirer en bloc, parce que c'est quelque chose à analyser, à penser et à vivre.
Jean-Michel. C'est pas qu'une offre de consommation quand même, ces technologies-là, hein, parce qu'elles envahissent notre quotidien de manière hyperbolique. Hein. C'est pour ça que ça nous fait problème. Si c'était simplement une utilisation ponctuelle. Bon, moi, je suis très attentif au développement des serious games, hein, parce que les serious games, effectivement, permettent de comprendre mieux et donc d'agir mieux dans le réel. Hein, parce que c'est aussi une dimension du virtuel qu'on n'a pas évoquée, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est que le virtuel, c'est également la possibilité de se faire une représentation épurée de la réalité qui nous permette d'être plus efficaces sur elle. Hein, je prenais l'exemple bien connu en aéronautique, hein, simuler numériquement, hein, on dit aussi virtualiser le parcours de l'air le long des ailes d'un avion. Bon, on ne peut pas le faire en réalité, on peut le faire virtuellement, et ça nous donne une efficacité considérable sur le terrain de la construction de l'avion ou sur son pilotage. Donc le virtuel a une efficacité sur la réalité. Et donc, je trouve tout à fait logique que dans les entreprises, on se serve de plus en plus de serious games pour simuler des situations économiques. Donc, tant qu'on est là dans cette instrumentalisation de ces technologies-là, on n'a aucun souci à se faire, et même on peut se réjouir et considérer que c'est un réel progrès. Reste que ces technologies, elles génèrent des formes d'addiction, des formes de fascination qui bousculent précisément un certain nombre d'éléments qui étaient jusqu'à présent structurants pour notre perception du réel, pour nos relations les uns avec les autres. Et on voit bien, de ce point de vue-là, on est tenté de se servir d'Internet comme d'un instrument de dopage, hein, et d'où le fait que l'émotionnel doit prendre une part de plus en plus importante. Hein, ce que dit Bernard Sigler, c'est que on est menacé toujours de désublimation, comme il dit, hein, à cette désublimation, c'est-à-dire de désinvestissement de la réalité, eh bien, on est tenté de trouver une compensation, et une compensation dans un toujours plus. Hein, et Internet offre magnifiquement l'occasion de ce toujours plus. Hein. Donc c'est ça, encore une fois, c'est une question de curseur. Hein, une question de curseur. Comment s'assurer de pouvoir préserver la distance par rapport à l'instrument et d'en avoir une représentation essentiellement pragmatique. Bon, quand on parle devant des gens d'entreprise, en général, ça ne fait pas de problème parce qu'ils ont distancié la chose. Quand on est des communautés de jeunes, des étudiants, quelquefois, on a beaucoup plus de mal à faire passer le message qu'il faut être attentif à la situation dans laquelle on place le curseur. Et c'est pour ça que Internet pose réellement un problème de société, c'est-à-dire il est l'occasion de transformer les comportements, de transformer même des représentations conceptuelles des choses, le télescopage entre réalité et fantasme, par exemple. Vous l'avez dit en disant que non, mais c'est vrai que de plus en plus, cette frontière entre le fantasme et la réalité, elle devient insupportable à de plus en plus de gens, hein, et qui trouvent précisément un argument pour consentir à cette déstructuration dans le web.
Par exemple,
tous les grands exemples qu'on a pu donner avec Second Life de jeunes qui pouvaient passer 22 heures dans la peau d'un avatar. Ça, ce sont des phénomènes évidemment les plus spectaculaires, mais de manière plus insidieuse, c'est simplement effectivement le fait que Internet devient de plus en plus l'écran dans des relations sociales. On cède aux réseaux sociaux comme autant d'alibis qui permettent d'échapper à la relation présentielle immédiate. Et ça ne peut pas ne pas produire des effets à terme. Hein, on s'accorde tous à dire que la génération des geeks est de plus en plus envahissante. Ça produira évidemment quelque chose. Comme la représentation du monde du travail chez un jeune aujourd'hui, qui cède à la fascination pour Internet, elle fait problème. Hein, elle fait problème, c'est évident.
Toutes les grosses compagnies ont déjà des agences de recrutement sur Second Life. Harvard recrute des gens sur Second Life.
Maintenant, c'est les community managers qu'on arrache. Hein. C'est comment se positionner en tant que société sur du développement et tout.
Non, mais je trouve, si je puis dire, que vous avez, dans une vieille vue sur le monde, vous avez entièrement raison.
C'est une vieille vue sur le monde. Oui. J'ai argumenté la chose hier en disant que pour être révolutionnaire, il faut d'abord être conservateur.
Il faut avoir des parents conservateurs.
Oui. C'est une belle idée. Hein, c'est pas...
Vous dites que la représentation des jeunes est un problème. Ben, le problème, c'est surtout qu'il n'y aura plus assez de jeunes pour remplir tous les emplois dont on aura besoin. Donc, de toute façon, toute la société est obligée de s'adapter à la façon dont les jeunes vont évoluer, etc. Il faut arrêter de se dire qu'on va arriver à les remettre dans un certain moule. On
ne
va pas arriver à les attirer, à les retenir, à les développer, à faire en sorte qu'on...
Non, mais là, ce que disait Jean-Michel, c'était autre chose. C'est que, justement, pour aider les jeunes, entre guillemets, à se forger une vision du monde, il faut peut-être aussi les contraindre au départ à une vision du monde qui peut être vieille ou périmée, mais qui les force justement à se confronter, à réagir. Et ce que disait Jean-Michel hier, c'était qu'aujourd'hui, un des problèmes peut-être de la jeunesse, c'est que leurs parents ont démissionné par rapport à cette tâche-là, dans beaucoup de cas, pas du tout.
Oui, non, j'évoquais une idée qui a été formulée fort bien par Hannah Arendt, hein, qui disait que la fonction des adultes était de présenter aux jeunes le monde qu'il leur léguait, hein, et que cette présentation du monde, elle suppose évidemment une posture conservatrice. Et pour préserver le potentiel révolutionnaire chez les jeunes, il faut précisément qu'à un moment donné, on leur ait offert.
J'ai quelque chose à dire, parce que la reine, dans la crise de l'éducation, le dernier paragraphe de cet essai dit que l'éducation est le moment où on sait si on aime, où l'on décide si on aime assez le monde pour permettre aux jeunes de faire quelque chose que nous n'avons pas prévu. Et je crois que, oui, mais c'est ça le problème. C'est que nous devons aussi, nous, comme génération qui avançons gentiment vers la pension, arrêter de croire qu'on est la génération charnière qui tenons le futur entier entre nos mains. On doit aussi faire confiance aux générations qui montent, qu'ils ont comme nous le souci du monde. Et on doit accepter cet éternel recommencement qui est quand même un fil rouge de la pensée d'Arendt. Et voilà, donc, conservateurs, oui, mais évidemment qu'ils ont comme nous besoin de racines. On n'est jamais que des gens qui sont nés quelques années avant eux. Et donc, voilà, bien. Je trouve que bien sûr on est responsable, mais eux le seront aussi. Et voilà.
J'espère qu'ils vont mieux réussir que ma génération de 68.
Écoutez, non, mais on peut dire très simplement que soit je suis sur la terre de mes enfants, soit je suis sur la terre de mes enfants. C'est pas la même chose. Ou bien, effectivement, je suis d'une terre que j'ai héritée de mes parents et je vais veiller, effectivement, à au minimum qu'elle soit aussi bien que je l'ai reçue. Et si possible, essayer d'améliorer. Ou bien, je suis sur la terre de mes enfants, et donc j'ai une responsabilité en faire ces enfants pour qu'ils aient un monde meilleur, afin qu'eux encore l'améliorent.
Mais les deux sont...
Oui, mais le meilleur les deux sont pas celui que je veux dire. C'est pas l'un ou l'autre enfant.
Mais dans ce qu'a dit Paul, il y a quelque chose de très important, et qui est précisément, à mon avis, ce que met en doute Jean-Michel. Tu dis, Nicole, en gros, bah, il n'y a pas de raison à ce que nos enfants soient moins responsables que nous.
Ou moins capables
de responsabilité que nous. Je pense que le point, et qui fait débat, qu'amène Jean-Michel, c'est qu'il dit que toute une série de technologies aujourd'hui, et pas seulement celles de l'Internet, mais d'autres, peuvent induire précisément une dissolution de ce sentiment de responsabilité.
Et je pense que c'est une configuration de l'enjeu. Enfin, ça, c'est le truc sur un arène, ça peut prendre un quart d'heure, mais je pense que c'est fallacieux comme vision et que j'y a rien qui fait qu'on peut penser qu'on est dans un moment critique, parce que ça, c'est le résultat d'une... En fait, c'est la gestion des limites. On est paniqué parce que tout d'un coup, on se rend compte que oui, il y a des limites. Mmh. Mais il y a des limites spatiales. C'est pas pour ça que les limites sont temporelles. Et donc, il y a une transformation de cette prise de conscience des limites spatiales en apocalypse. D'ailleurs, qui n'est pas un truc nouveau, l'apocalypse, ça fait longtemps qu'on en parle. Je conteste cette façon-là d'importer la question des limites dans le débat et qui est de paniquer parce que, et qui est aussi une façon de gérer le refus de notre mortalité. Bien sûr, on va mourir, mais le monde va continuer, la Terre tourner dans l'espace jusqu'à ce qu'elle explose, mais c'est une autre affaire. Et donc, je trouve qu'on doit. Cette configuration est une façon de vouloir se mettre au centre du monde qui est tout à fait abusive. Enfin, voilà, c'est comme ça.
Mais je ne sais pas si c'est se mettre au centre du monde, c'est peut-être simplement de se poser la question, de se dire est-ce que ce qu'on donne à nos enfants aujourd'hui, sans dire qu'on est meilleur qu'eux ou moins bon qu'eux, mais simplement est-ce que ce que les enfants apportent et est-ce qu'on leur amène assez les éléments de réflexion pour qu'ils en prennent conscience. Voilà, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un monde, et peut-être que c'est là qu'on a la démission des parents, et peut-être même la démission des professeurs et la démission de l'éducation, c'est qu'on donne plus à nos enfants la possibilité de consommer que d'avoir une véritable réflexion, de se développer leur propre identité, c'est-à-dire de permettre d'avoir une véritable réflexion sur ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Voilà.
Si on leur propose en plus des instruments de fantasmatisation, si on les immerge dans un univers de fantasmes, effectivement, on leur donne peu de moyens d'affronter un principe de réalité.
Je crois qu'on gère mal.
Oui.
Oui. Ça m'a été le premier événement de transformation de fantasmes. L'invention de l'imprimerie, Gutenberg. Avant ça, tout simplement, on n'avait pas accès.
Avant même l'écriture.
Oui, l'imprimerie, ce sont des énormes chamboulements, transformations, révolutions. Internet est du même ordre. Est-ce que ça va transformer profondément? Je pense que oui, devons-nous en avoir peur? Ben, tout changement provoque une peur. C'est normal, c'est humain. Non, mais est-ce qu'on va vraiment commencer à penser fin du monde, paniquer? C'est un héritage qu'on donne à nos enfants, ce sont des étapes qui vont se faire.
Mais c'est vraiment l'enjeu, effectivement,
oui, c'est un enjeu de révolution.
Du débat qu'on a sur quelle responsabilité dans les mondes virtuels ou dans ce futur avec des technologies très fortes, parce qu'effectivement, on peut remonter à la nuit des temps et dire... Et toute la question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y a un changement qualitatif fondamental.
Il faut quand même... Bon, j'aime bien qu'on amène ce genre d'argument, parce que ça suppose, d'une part, qu'on perçoive des continuités dans les différentes ruptures qu'a connues l'humanité.
C'est
une première chose. Ça suppose qu'on imagine que nos civilisations sont immortelles, aussi. Bon, alors que, bon, il y a des travaux intéressants qui ont fait l'histoire de la disparition des civilisations. Et puis par ailleurs, ça suppose qu'on ne fasse pas la distinction, parce qu'entre Internet et l'écriture, il y a quand même des différences. L'écriture, elle nous a permis précisément cette catégorisation du monde, cette segmentation, hein, le fait même d'écrire a vraisemblablement développé dans nos esprits l'aptitude à voir le monde de manière segmentée et à agir sur lui. Enfin, il y a des travaux, Jacques Goudy, qui est un excellent historien, de la chose à montrer l'impact qu'a pu avoir vraisemblablement l'écriture sur la maîtrise dont nous sommes rendus capables sur le monde. Les spécialistes d'Internet, enfin qui travaillent un petit peu sur en termes de sémiologie, de sémiotique, etc. sur Internet, sont loin de considérer que Internet a les mêmes vertus que l'écriture.
On n'a pas le même recul. L'écriture.
Ce sont les mêmes, évidemment.
Pas pourquoi c'est l'invention de l'imprimerie. Attendez, on parle ici de 500 ans, de 2000 ans de recul. Ici, on parle de 20 ans.
C'est en train
de recul par rapport aux prémices d'Internet, je pense, c'est 20 ans.
L'accélération des technologies.
Oui, bien sûr, mais.
Sur Facebook, on n'a pas encore du tout.
Bien sûr. C'est une question de manque de perspective, de recul et aussi peut-être d'incapacité à. Anticiper le fait que le cerveau ou nos connaissances humaines vont pouvoir se développer ou s'épanouir autrement, je pense.
Ça, on a déjà un certain nombre de travaux en neurosciences qui sont intéressants.
Oui, ici, il y a quand même un grand point d'interrogation aussi sur nos facultés, nos capacités à évoluer et à vivre autrement.
Et que montrent ces travaux sur les neurosciences?
Bah, par exemple, ils mettent en évidence que l'utilisation des technologies chez les jeunes développe, et ça se voit même visuellement, hein, l'imagerie cérébrale, une aptitude à la flexibilité, hein, à la multi-activité qui nous déconcerte. Moi en tout cas, je suis absolument incapable de faire plusieurs choses à la fois. Les jeunes sont beaucoup plus capables. Je suis d'accord avec vous. Bon, et donc ça transforme fondamentalement quelque chose. Mais le revers de cet avantage, le revers de cet avantage, c'est les problèmes d'attention. Les problèmes d'attention, c'est-à-dire la focalisation de l'attention sur quelque chose, elle est moindre. Hein, du fait même de cette flexibilité qu'on encourage. Hein, et bon, là, les grosses pathologies qu'on voit venir aujourd'hui sont liées à l'attention. L'hyperactivité, c'est un déficit d'attention.
Pierre-François et puis Alexis.
Limitement rebondir là-dessus, parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir quel est l'impact des univers virtuels sur le sens des responsabilités. Parce qu'au début, on a beaucoup parlé sur côté juridique de la responsabilité, mais moi ici je veux parler vraiment du sens inné de la responsabilité, qu'on pourrait presque lier au sens éthique. Et voilà, quelle est l'influence des univers virtuels sur ce sens des responsabilités? J'imagine que c'est très différent d'un univers virtuel à un autre. Je vais essayer de me raccrocher à des notions de base, enfin, ou des sentiments de base que j'ai par rapport à ça. C'est que le sens des responsabilités, pour moi, je vois deux paramètres, il y en a certainement plus, mais il y a d'une part, un paramètre de liberté. Je pense qu'au plus on laisse la liberté, au plus on peut avoir un sens inné des responsabilités, parce qu'à l'opposé, on réglemente tout, on déresponsabilise les gens, parce que c'est ceux qui ont fait les réglementations qui deviennent responsables, mais c'est plus moi. C'est un paramètre. Le paramètre, ce serait l'assistance. Si vraiment on commence à trop assister les gens, on les déresponsabilise aussi. Alors, j'essaye de voir dans les univers virtuels quel est le degré de liberté par rapport au degré de liberté dans le monde réel, et dans un monde virtuel, quel est le degré d'assistance par rapport à un monde virtuel. Alors, on peut avoir un plus grand degré de liberté, parce que j'ai compris par exemple dans Second Life que le cadre juridique il est encore à construire. Donc, ça pourrait donner une augmentation du sens de responsabilité. Si je pense en termes d'assistance, je dirais d'une part, on a une assistance incroyable dans le monde virtuel, dans le sens que, voilà, en bougeant un peu du doigt, on peut se téléporter, on peut faire des choses, on n'est plus limité par les certaines contraintes physiques, ouais. Si je parle, on va dire, de mouvement, par exemple, ce qui pourrait avoir comme influence que quelqu'un qui est beaucoup dans un monde réel, il a l'habitude d'être assisté en ce qui concerne le mouvement physique, et donc il va se déresponsabiliser par rapport à cet aspect-là. Et comme le monde virtuel a un impact sur le caractère de la personne aussi dans le monde réel, ça va avoir un impact aussi sur sa vie dans le monde réel. Donc moi, je serais très intéressé de voir un peu votre vision sur cet aspect-là.
Ma réponse sera sans doute seulement partiellement satisfaisante en termes de liberté, assistance, je ne sais pas ce que tu vas proposer, mais je voudrais peut-être dire une chose et puis donner une anecdote pour l'illustrer. Second Life, les jeux de rôle en ligne, c'est essentiellement un lieu de vie sociale. Et donc, dans un groupe qui a des tâches à accomplir, avec un cadre qui se met en place, il y a de la règle qui est produite socialement, il y a des liens de responsabilité, de désapprobation, d'approbation des comportements des uns des autres. Donc, comme un jeu de scout l'après-midi en forêt, Second Life est un endroit d'apprentissage de la responsabilité. Il y a une anecdote qui continue à beaucoup, beaucoup m'amuser et qui est la manière dont ce qu'on appelait le cercle des elfes a reproduit spontanément des grands procès de liberté d'expression en droit européen et en droit américain. Le cercle des elfes, c'est un groupe sur Second Life, une communauté qui a 2-3 îles, donc 2-3 zones dans Second Life, où les avatars sont des personnages de l'imaginaire qu'on dit elfique. Et puis c'est une communauté qui est hiérarchisée. Il y a des sages qui sont désignés. Et il y a eu un moment une controverse sur qui était, de quel genre était réellement un des leaders qui se présentait sous forme d'un avatar féminin, mais qui en fait était un homme. Et quand on a appris qu'il y avait ce camouflage, certains dans la communauté ont dit: ah, puisqu'il nous ment, il n'a pas les qualités requises pour être notre chef. Et un certain nombre de personnes qui se sont exprimées sur ce sujet ont ensuite été bannies du cercle des élus. Et donc on se retrouve là par rapport à des actes d'expression, une sanction de la liberté d'expression, des commentaires relatifs à la vie privée, mais à la vie privée
de personnes publiques, en tout cas qui exercent une fonction dans la société, dans le petit groupe social, qui sont les grandes catégories du droit de la liberté d'expression. Et ces gens n'étaient pas du tout juristes. À un moment, ils ont fait appel à un étudiant en droit pour commenter un peu leur dispute. Mais c'était vraiment ces grandes questions de comment on vit en communauté qui étaient là dans ce petit groupe. C'est simplement un lieu de sociabilité comme un autre avec toutes les questions morales que cela soulève.
Ce qui me fait dire un peu que c'est des formidables laboratoires, en fait, parce qu'on peut expérimenter là.
Tout à fait.
Bien non.
C'est un des usages.
Situation en termes de quelles sont les règles, quel est le degré de liberté, quel est le degré d'assistance, qui peut nous aider peut-être à améliorer le
tout
monde
à fait.
Réel.
Alors, il y a un économiste, professeur dans une université qui est Castronova, qui a créé un monde virtuel pour tester de la régulation de l'économie. Puisqu'il y a du commerce, puisqu'on vend des choses, etc., ben voilà, faisons différents cadres.
C'est de la modélisation.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une des questions des sciences sociales, c'est de savoir dans quelle mesure on peut faire de l'expérimentation, puisqu'on vit, on joue quand même avec les gens. Et donc, il y aurait, par rapport au protocole éthique d'expérimentation en sciences sociales, quelque chose que les mondes virtuels permettent d'autres juristes. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été mis en œuvre. On peut dire, on va tester du droit comparé. Parce que le droit comparé, ça consiste à voir un problème, comment il est géré en Europe, comment il est géré aux États-Unis. Ben, voyons comment les sociétés peuvent réagir par rapport à des hypothèses législatives. Donc, effectivement, ce sont des laboratoires. Alors, juste une petite chose que je voudrais dire, parce que c'est lié au même auteur qu'Astronova, par rapport à tous les débats précédents sur le dopage de l'imaginaire, la tendance à consommer toujours de l'excitation. Castronova a fait un bouquin qui s'appelle « L'exode vers les mondes virtuels », qui est un bouquin dans lequel il développe la thèse selon laquelle il est assez naturel d'aller là où on s'amuse et de faire des choses qui apportent une certaine satisfaction. Quand je donne cours et que je vois des étudiants qui n'ont pas l'air d'être complètement attentifs, ça m'énerve parce que je les ennuie, pas parce qu'ils ne m'écoutent pas, mais parce que je les ennuie. Moi, quand je m'ennuie, je quittais la salle de cours. Ça m'arrivait beaucoup. Donc voilà. Mais c'est assez naturel d'aller là où on s'amuse, là où on a des satisfactions dans les activités. Et la thèse de Castronova dans ce bouquin Exode vers les mondes virtuels, c'est de dire dans un univers virtuel, et c'est vrai qu'il y a la part de fantasme qu'il est important de décrypter, mais tout fait sens. Si j'accomplis une tâche qui est relativement difficile, si je la réussis, je suis récompensé. J'ai une place qui me valorise. Alors, effectivement, c'est du fantasme. Mais, dit-il, à un moment, quand une masse critique de gens auront pris l'habitude d'être dans des lieux d'interaction sociale qui sont très satisfaisants, qui sont plus satisfaisants que certains aspects de notre quotidien, on va avoir un effet de retour. Et cet effet de retour, dit-il, et il l'explore notamment sur le terrain de l'organisation de l'entreprise, va être d'exiger que les lieux du travail, les lieux de l'éducation, deviennent aussi fun que les mondes virtuels. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un ressort psychologique très puissant et qui me paraît vraiment, vraiment, vraiment amusant. En enseignement, par exemple, dans un amphi, aujourd'hui, disons le tiers ou le quart des étudiants sont sur leurs ordinateurs. En plus, dans l'amphi où je donne cours souvent, moi j'ai pas accès à internet, eux oui. Et alors c'est l'horreur, c'est vraiment l'horreur. Alors je me bouge beaucoup quand je donne cours, parce que j'en ai les micros sans fil. Quand je vais vers le fond de l'auditoire, il y a un effet de vague, comme ça, les écrans se baissent. Mais quand je suis revenu, ils sont relevés. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Je ne suis pas sûr que ça ait toujours en lien avec le cours. Par contre, mais si on crée un hashtag sur Twitter relatif au cours, relatif au séminaire, ce n'est plus du bavardage sur des choses qui n'ont rien à voir avec le cours, ça devient de la réflexion critique, de l'appropriation de la réaction sur le cours. Et donc, il y a là quelque chose qui leur permet d'être plus engagés. Il n'y a rien qui est aussi ennuyeux qu'une situation d'enseignement classique où on est passif par rapport à un prof qui est en position de lumière du savoir. C'est pas fun, ça. Et si on parvient, au contraire, à engager les étudiants dans une attitude de « Mais oui, amusez-vous, participez, soyez présents sur le truc », il y a un gain d'efficacité. Et c'est toute l'idée de ce bouquin, sur les virtuels. Et il me semble que bon, lui, il a un côté un peu évangéliste des nouvelles technologies du virtuel, donc il pose sans doute les choses un peu loin en prophétisant des révolutions politiques, un nouveau monde d'organisation de l'ensemble de la société. Mais il y a des effets de recours qui font, à mon avis, partie du débat sur.
On va peut-être laisser Jean-Michel répondre aussi à la question du sens par rapport à la responsabilité.
Mais là, en rebondissant sur vous, on pourrait dire aussi bien qu'on crée de la frustration. Hein, en immergeant ces jeunes dans un monde un peu bisounours, hein, où on arrive à orchestrer des relations absolument idylliques, etc. etc. Alors vous dites, ça va leur donner des exigences dans le monde réel et ça va permettre au monde réel de changer. Mais on pourrait aussi bien dire que non seulement ça va créer de la frustration qui va les conforter et faire en sorte qu'ils voudront séjourner dans ce monde idyllique, hein, ou bien bon, ils voudront fuir vers le haut, hein, et renouer avec un certain nombre de d'échappatoires. Dans les années 68 que vous évoquiez là, donc c'était Timothy Leary et son LSD, et bon, voilà, tout c'était. Bon, ça
je crois que le décryptage se joue encore à deux tensions.
Encore une fois, oui, non, mais je suis vraiment très. Je vais lire Castanova parce que ça.
Vous avez les références.
Ah, je vais bien, volontiers. Pour répondre à votre intervention, moi, je crois que vous disiez deux choses un peu différentes dans votre question. C'est vrai qu'on peut dire que toutes ces technologies, elles favorisent le bottom-up. Hein, et donc, de ce point de vue-là, la responsabilité, elle est encouragée, hein, puisque on a le sentiment que les gens participent à des processus. Hein, alors qu'on était dans des univers qui étaient figés avec des identités marquées, des places assignées, là on est dans du processus, hein, et le processus, bon, il invite à l'autorégulation, à l'invention de normes, etc. Et ça, de ce point de vue, moi je crois qu'il y a un bénéfice incontestable à tirer. Alors est-ce que c'est la responsabilité? Est-ce que l'invention collective des normes, l'invention collective d'une communauté, est-ce que ça fait appel à de la responsabilité? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Hein. Les phénomènes d'auto-organisation, les phénomènes d'auto-régulation sont aussi quelquefois le produit émergentiel d'algorithmes, de procédures, de routines, etc. Et c'est plutôt ça le modèle, moi, que je vois fonctionner dans l'univers du web. Hein. C'est une espèce de culture de l'émergence, hein, qui fonctionne. Et l'émergence, par définition, c'est l'apparition de l'inattendu, hein, de l'inattendu qui va stabiliser, hein, et qui sera bénéfique dans ce cas-là. Mais il n'y a pas la responsabilité au sens où prendre une responsabilité, c'est anticiper une situation en mobilisant des moyens, c'est se reconnaître dans ce qu'on a fait, etc. L'univers dont on parle là, c'est un univers qui processualise absolument tout et nous oblige par conséquent à être toujours à la jonction de quelque chose qui existe avant, qui existera après. Pouvoir s'assigner l'autorité de ce que l'on fait, c'est extrêmement difficile. Et la dynamique collective que le bottom-up encourage, noie, dilue quand même la responsabilité. Donc, je pourrais le dire encore autrement, et je le dis rapidement, on est dans un univers où on dilue les altérités. L'altérité, la confrontation à autre chose que soi qui serait la matière d'un défi pour une action, pour une décision, etc., disparaît de plus en plus également. Donc, je ne suis pas persuadé que ça soit la même notion de responsabilité que la notion classique qui veut qu'une responsabilité soit assumée par un être qui s'affiche comme une identité, qui se situe dans le temps, dans une temporalité, etc. Je ne suis pas sûr que cette notion de responsabilité elle puisse rester intacte avec les technologies du virtuel.
Moi, je pense en effet que la notion de responsabilité change, mais c'est parce que le monde change. Oui. Vous avez une communication, la responsabilité, vous dites, diminue parce qu'on est de plus en plus confronté à des différences, on voyage.
Est-ce que le mot responsabilité encore a un sens? De quoi est-ce que je réponds?
Mais c'est une autre responsabilité, je pense.
On a toujours à répondre de ce que l'on fait.
On a toujours. Oui, on voudrait avoir toujours à.
L'être humain est par nature appelé à devoir répondre de ce qu'il fait vis-à-vis des autres. Ça reste. Parce qu'il peut toujours être interrogé sur pourquoi tu as fait ça. Et donc, la responsabilité consiste à être toujours sollicité à devoir répondre aux questions. C'est pour ça que je voudrais, oui, si on pouvait continuer la liste des questions, oui, parce qu'il y en a une. Que...
Mais, oui, mais c'est celle-là qu'on va aborder. C'est celle, effectivement, de, tu le disais, de l'histoire des personnes morales, oui, de leurs limites.
Oui, alors, je vais commencer par une boutade. La personne qui va dire que c'est le capitaine Haddock qui était responsable de ce litige, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Hergé. Mais pas enfin. Alors, si je reprends l'avatar, pour moi, la responsabilité de ce que fait l'avatar, c'est le typiste qui est responsable. Et donc, je suis extrêmement inquiet de voir que l'on tente à vouloir donner une personnalité morale à un avatar. Et je voudrais que l'on prenne conscience que des recherches qui sont faites par Stéphanie Drakenberg à l'université, à l'école de commerce de Londres, où elle retrace le processus historique qui a amené à l'existence d'entreprises SA avec personnalité morale différentes des actionnaires.
Et responsabilité limitée.
Oui, avec responsabilité limitée. Et elle rappelle dans l'histoire qu'elle a établie combien les entrepreneurs du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, et qui étaient des personnes physiques, des êtres humains, en chef d'entreprise, ont été scandalisés que l'on puisse confier des responsabilités d'entreprise à des gens qui limitaient leurs responsabilités à la mise qu'ils mettaient. Et il y a donc tout un mouvement de recherche aujourd'hui qui se fait pour recontester à l'être moral entreprise qu'il puisse être porteur d'une responsabilité, mais que la responsabilité de ses actes doit être imputée à ceux qui en sont propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires. Ça va jusqu'à la chose suivante, je ne sais pas si vous savez que la Cour constitutionnelle des États-Unis vient de voter à 5-4 le fait qu'une entreprise, corporation, peut avoir une opinion politique et indépendamment de l'opinion politique de ses actionnaires. Et que donc, une entreprise peut consacrer de l'argent appartenant aux actionnaires, dans notre monde capitaliste, pour défendre une opinion politique lors d'élections qui ne sont pas nécessairement celles de la majorité des actionnaires. Et donc, on donne à un être moral une capacité d'intervenir dans les affaires politiques indépendamment de ceux qui sont normalement, pour reprendre l'exemple, les typistes de cet avatar. Donc, ça mérite vraiment qu'on réfléchisse.
C'est une question. Et qui fait écho à notre premier séminaire avec François Ewald, si tu te souviens bien. Effectivement, on a abordé l'idée qu'effectivement, un des problèmes par rapport à tout ce discours incantatoire, on le disait hier, sur la responsabilité sociétale des entreprises, c'est qu'effectivement, a priori, les entreprises ont une responsabilité limitée, au contraire de personnes physiques.
Voire même les limites de la limite.
Voire les limites de la limite.
Ce qui est très drôle, c'est le moment où le droit pénal s'empare de la responsabilité de l'entreprise. Il y a un moment où la loi a décidé que le droit pénal pourrait être imposé aux entreprises, donc par la responsabilité pénale de l'entreprise. Or, traditionnellement, pour le juriste, la responsabilité pénale, ça veut dire une intention. Ça veut dire qu'il y a une intention de... Comment est-ce qu'une personne immatérielle, inexistante, pas humaine, pourrait avoir une intention? Alors, bon, le droit est habitué à jouer avec les fictions, donc il y avait des... Mais pourquoi est-ce qu'on crée des institutions juridiques? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on décide qu'on va créer ces formes de... société anonyme. Je pense que c'est parce que ça répondait à une demande ou un besoin social. Il y avait, à l'époque où ça apparaît, un besoin de pouvoir rassembler de l'argent pour mener un certain nombre de projets.
À risque diminué. Bien rassembler de l'argent en limitant le risque.
Tout à fait. Et c'est une forme d'organisation de l'activité humaine qui a sa légitimité, qui a son intérêt, qui faut, à partir, autour de laquelle il faut certainement rester... extrêmement critique, mais je pense que par rapport à l'avatar, c'est la même question, c'est la même chose, et ça peut être la même légitimité ou la même nécessité, la même demande sociale, parce que c'est un besoin, mais d'ériger
une personne immatérielle en personne morale pour pouvoir effectivement en cerner la responsabilité. Alors,
dans le cas, c'est un objet social qui est défini.
Bien sûr, bien sûr.
C'est qui est parfois dépassé, ça c'est un problème.
Enfin. Mais oui, mais ce que je ne comprends pas, vu que ça passe devant un tribunal réel, mais qu'est-ce qui est représenté là? L'avatar, il est représenté par son taipiste. Ça sera le taipiste qui devra faire, enfin, je ne sais pas, moi.
Il est transporté.
Dans les procès que monsieur a rappelé tout à l'heure, qui se sont passés à Hollande, ce sont les taipistes qui ont été
condamnés,
appelés en justice.
Ce genre d'appel auquel on ne peut pas renoncer.
Oui, bon. c'est pas l'avatar qui est venu se présenter. Je veux dire, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Bien sûr.
De même que si le capitaine Haddock avait dû faire une imbécilité, c'est Hergé qu'on tiendrait responsable de ce qu'il a fait.
Bien sûr, ça, c'est le premier point. En l'état actuel, l'étape préalable pour pouvoir faire un procès s'il y a quelque chose, un fait dommageable qui se produit dans un monde virtuel, c'est de pouvoir identifier le typiste. Et ça, c'est, comme je vous le disais, ça exige une certaine collaboration avec le propriétaire éditeur du monde virtuel qui, lui, en connaît l'identité. Mais on peut imaginer, et il y a des travaux en ce sens, notamment la faculté de droit de New York, de dire, on peut très bien se passer de cette étape d'une présence physique. Il existe un projet de loi dans l'état du Delaware qui prévoit qu'une personne morale puisse enregistrer son siège social dans un monde virtuel. Et donc, à partir de ce moment-là, et à partir du moment aussi où on a l'architecture législative et technique qui donne le minimum de sécurité nécessaire, on peut très bien imaginer de la téléprésence, de la présence via des avatars, pour résoudre des litiges relatifs au patrimoine, relatifs aux actions, aux actes de personnalité morale à travers des choses que les avatars font dans les mondes virtuels. Mais ceci, c'est un chantier. Hein. Je veux dire, c'est une piste qui est énoncée comme un chantier, pas autre chose. Mais c'est quelque part, le problème est simplement technique. Ce n'est pas une question qui me semble très très différente de la création d'une personne morale au départ.
Il n'y a pas de réflexion éthique. On ne le prend que sous la technicité.
Exact.
Il y a une réflexion éthique préalable avant de faire cette démarche
technique. Et surtout, dans l'empilement, parce que les avatars des avatars, est-ce qu'on va rester à ce premier degré ou un taipiste pour un avatar?
Est-ce que le taipiste n'est pas par rapport à son avatar dans la même position que Dieu par rapport à ses créatures? Au sens où, entendons-nous, en termes de représentation, l'avatar dont vous parlez, c'est pas une marionnette. Il va évoluer dans un univers où il va rencontrer d'autres avatars, où il va rencontrer des situations. Il va être en position d'évoluer presque de manière autonome. Il va connaître... C'est une question.
La question est très complexe.
Est-ce qu'il n'y a pas des comportements émergents qui ne sont pas programmés ou prévus ou prémédités par le taïwiste, de la même manière que nous, les créatures, par rapport à un éventuel dieu?
Alors, si le taïpiste est un dieu, c'est uniquement dans un cadre, c'est un petit dieu dans un monde polythéiste. Parce qu'il y a un grand dieu qui est le propriétaire de l'univers virtuel et qui décide de tout. Il peut supprimer l'avatar. Alors, au départ, et encore très largement en l'état actuel, l'avatar est effectivement une marionnette. C'est un outil, comme un téléphone, comme une personne morale. C'est un outil qui permet de faire un certain nombre de choses. Mais vous avez entièrement raison d'ouvrir cette hypothèse, parce qu'elle est là entièrement présente. Si on programme des avatars pour répondre de manière automatique, et qu'un bug se glisse dans ce programme, ou qu'une question non prévue se pose à l'avatar qui génère une réponse non prévue, on va effectivement avoir de l'imprévu qui va surgir entre une part de machine et une part de
c'est ce qu'on vit. C'est le ressort même du jeu et de l'excitation du jeu. Hein, c'est précisément, on crée des situations
nouvelles.
Bon, même SimCity, pas SimCity, mais l'autre jeu qui consistait à définir des paramètres psychologiques, à mettre en situation des personnages psychologiques et puis de voir comment ils vont interagir les uns avec les autres et produire des situations nouvelles, lesquelles situations vont rétroagir sur les comportements, etc. C'est ça le véritable ressort de la...
C'est ce qu'on appelle dans les mondes de jeu, il y a les personnages non joueurs qui sont donc programmés.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on peut imaginer la complexité des codes et puis la complexité des interactions, des choses non prévues.
C'est des modèles collectionnistes.
Ce qui est marrant, c'est la formulation de questions dites comme Dieu par rapport à sa créature, comme si vous saviez c'était quoi des dieux à la place de Dieu.
Je trouve ça drôle.
On est très attention. La représentation,
c'est marrant. Non, c'est marrant. Je trouvais ça étonnant comme façon de poser la question. Ouais.
Si je comprends bien, la présence physique n'étant plus indispensable à un procès, si je suis l'idée de madame, et donc. Je suis un typiste, j'ai créé un avatar. Mon avatar a créé un autre avatar. Et c'est cet avatar B qui, lui, a commis une faute. Et au moment où je suis devant le président, c'est mon avatar B qui apparaît sur l'écran, qui est responsable.
Comment votre avatar a-t-il créé un avatar? Ça voudrait dire qu'il faut... On est dans l'hypothèse Inception, hein,
c'est
on descend de plus en dans
c'est
un niveau.
Le rêve du rêve.
Matrix et Inception.
Oui. En l'état actuel, je n'ai pas encore vu de possibilité pour un avatar de créer
un avatar.
Ce qui existe, c'est des animaux de compagnie. Alors on a développé en droit la responsabilité du fait des animaux. On pourrait imaginer une responsabilité du fait de ces créatures.
Autre chose, si je ne crée pas l'avatar, mais j'ai un ordinateur WhatsApp qui crée l'avatar, que se passe-t-il?
Et c'est votre ordinateur.
C'est le propriétaire de l'ordinateur.
Non, c'est la même hypothèse.
Watson fait...
C'est la carte de crédit.
Watson est le typiste, c'est ça.
Watson est le typiste.
On est, à mon avis, ici, dans quelque chose où, pour le coup, on arrive à la frontière de la science-fiction.
Ou bien pire, j'ai un avatar qui est Watson et qui apprend.
Oui, mais on y pense. Hein. Je veux dire, ce n'est pas encore des problèmes qui se posent. Il y a des études, effectivement, sur quelle va être la responsabilité d'entités juridiques qui sont équipées d'intelligence artificielle. Ça, on y viendra un jour, mais pour le moment, il n'y a pas encore...
On le fait quand même pour le droit des robots, qui est quand même une question tout à fait à l'ordre du jour.
Oui, elle est étudiée, mais enfin, il n'y a pas encore un robot qui est venu déposer une requête devant un tribunal. On y vient.
Je voudrais revenir sur une remarque qui était faite tout à l'heure par rapport à l'invention de l'écriture. Je crois qu'il y a une notion qu'on ne prend peut-être pas en compte, je ne sais pas si c'était ça que vous vouliez dire en disant je démystifie, il faut démystifier, il y avait eu l'écriture et ça a transformé notre monde et ce n'est pas bien plus grave que ça maintenant. Je crois qu'il y a une notion quand même qu'il faut prendre en compte par rapport à l'écriture, c'est que l'écriture, quand elle a été inventée, a mis un temps fou pour pouvoir s'étendre dans le monde. Aujourd'hui, la vitesse avec laquelle les choses s'étendent ne sont pas du tout comme l'écriture où il y a eu un temps d'adaptation possible pour les gens pour pouvoir y arriver. Quand on voit aujourd'hui que Facebook est à 1,5 milliard personnes qui sont sur Facebook en moins de 3 ans, je dis c'est pas l'écriture, c'est des changements exponentiels qui sont en train de se faire. Donc ça c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, je crois, par rapport à Internet, c'est quand même de dire aussi qu'il y a une grande mutation qui s'est faite. C'est au niveau du lieu où on habite. Et c'était Michel Serres qui disait ça dernièrement dans une conférence, et il disait, en fait, quand vous demandez l'adresse à quelqu'un en 1950, il vous disait, j'habite avenue Dupont, à Skraerbeek, à tel endroit. Et donc, on savait que cette personne habitait là, et que si on voulait le joindre, si on voulait lui envoyer un courrier, si on voulait faire comme ça, il y avait une adresse. Aujourd'hui, quand vous demandez l'adresse à quelqu'un, il vous répond, est-ce que c'est mon adresse physique, enfin, est-ce que c'est mon adresse email que tu veux, est-ce que c'est mon GSM que tu veux, et en plus quand vous rentrez en contact avec lui, vous ne savez absolument pas où est-ce qu'il peut se trouver, est-ce qu'il peut discuter, il peut très bien être au Mexique, en Afrique, son adresse physique ne veut plus rien dire par rapport à son lieu. Et donc la problématique que lui voyait et que moi je ressens très très fort, c'est que tout ça est très bien de dire il faut démystifier, c'est quand même pas grave, c'est pas truc. C'est vrai, je pense qu'il faut, sans doute une partie démystifier, mais il faut quand même se rendre compte que nos structures et toute notre architecture qui était mise en place
sont des architectures qui n'ont absolument pas évolué ou peu évolué par rapport avec à ces changements-là. Et qu'aujourd'hui, ben, on est toujours à se dire, ben, on a un bourgmestre de commune, on a une région, on a une nation, on a un G20 qui n'a absolument aucun pouvoir, on a l'ONU qui n'a aucun pouvoir, et voilà. Donc on est avec des codes législatifs et des codes d'architecture, de gestion,
de gouvernance,
voilà, qui ne sont plus du tout adaptés, même nos entreprises, quand on dit nos entreprises, est-ce que nos entreprises sont encore adaptées par rapport à ce qui est en train de se passer? Bon, je crois que c'est votre question, d'accord, par rapport à la poste.
Comment? Au monde physique, voire au monde virtuel.
Oui, voire, déjà au monde physique et au monde virtuel.
Ceux qui vont revenir du monde virtuel dans le monde physique.
Et tu démultiplies tes vies privées quelque part. Tu as un refuge vie privée physique, on donne de plus en plus rarement son adresse physique à des amis qui doivent effectivement venir te voir, ou de la famille, ou administrativement, mais... J'ai un compte Twitter qui n'a rien à voir avec ma page Facebook parce que je communique des choses tout à fait différentes.
Et ta marque rejoint une autre marque qui est très terre à terre par rapport à notre problème politique belge. Je trouve qu'il y a dans la Constitution belge un article de génie qui différencie les prérogatives qui sont liées à la personne qui, par nature, peut se déplacer partout dans le monde. Et des prérogatives qui sont liées au sol et qui, lui, ne bougent pas. Et que ce sont deux gouvernements différents qui doivent gérer les prérogatives liées à la personne et les prérogatives liées à la terre qui ne bouge pas. Mais enfin, ça, c'est.
Mais ça crée pas mal de problèmes aussi.
Et on y est de moins en moins.
Mais c'est-à-dire qu'on a oublié le génie de cette distinction.
Mais par rapport à ce que tu disais, Roland, il y a un autre point qui va dans le même sens et qui fait écho à ce que tu disais, Pierre-François. Et tu dis, bon, la société à responsabilité limitée, ça a répondu à un besoin social correct. Et donc, voilà, a priori, tu dis, bah, c'est normal. Le petit problème qu'on peut se dire, c'est que ça a été créé à un moment donné, mais qu'entre-temps, les choses ont évolué de manière quand même très différente. Enfin, pas différentes, mais de manière très très forte, au point où justement ce sont des sociétés à responsabilité limitée qui, on peut le dire en quelques mots, sont maîtres du monde, c'est-à-dire dont une série d'entreprises, donc à responsabilité limitée, sont bien plus puissantes que des tas d'États. Et or, ces sociétés ne sont pas élues démocratiquement, etc. Elles ont un pouvoir extraordinaire. Et donc, qui crée des lois par la co-régulation dont tu as écrit certaines choses avec Benoît Friedman. Et donc, on peut se dire, et ça rejoint un peu certains, je pense aussi ce que disait Jean-Michel, c'est que c'est bien de dire on démystifie tout, etc. C'est normal, ça s'est passé dans le futur. Mais en même temps, de se dire, à un moment, la convergence de certains éléments peut avoir des effets totalement dévastateurs. Yeah.
Mm-hmm. J'ai encore une complication, je crois, avec ce risque limité. Parce que imaginez que je fasse un avatar et mon épouse aussi. Et on se marie en second life et puis on divorce. Et il y a litige et il y a donc une cour qui se prononce. Alors, je peux vivre une situation où dans deux mondes parallèles, en juxtaposition, je vis dans un paradoxe.
En fait, tu peux expérimenter ton divorce.
Oui,
tu
peux expérimenter ton divorce.
Si ça vous arrive un jour, téléphonez-moi. Je veux faire ce procès.
Non, mais... mais parce que, je veux dire, une personne physique et qui crée une société, ce sont deux mondes différents, on pourrait dire. Ici, ce sont vraiment deux mondes parallèles où je peux créer mon propre paradoxe, et alors qui va me sortir. Donc, si j'abandonne la notion que le typist est finalement responsable, il va y avoir des paradoxes.
Mais donc, ça veut dire que de même que l'on peut tester l'aérodynamisme d'une tunnel d'avion, hein, on pourrait tester l'éventualité d'un divorce. Et puis, oh, les conséquences seraient trop dommageables, on ne divorce pas. Ou au contraire, oui, on divorce.
il est possible aussi que des éléments entièrement virtuels deviennent des parties du patrimoine à se partager. Qui va garder le chat virtuel? Qui va garder la maison virtuelle?
La
maison
synthétique. La vieille morgage dans le monde physique. Le complexe de château.
Une remarque pour revenir sur Facebook, c'est la question du maintien des pages Facebook après le décès de la personne. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui semble faire sens pour beaucoup de monde, d'avoir un lieu totalement virtuel de recueillement.
Il y a d'autres réseaux qui sont développés. Non mm-hmm. En dehors de Facebook, il y a des gens qui font des réseaux sociaux uniquement pour les gens qui décèdent. Oui. Aujourd'hui, on peut acheter sa page et dire je veux qu'elle reste active autant d'années possible.
Oui, ou délivrer des messages après son décès. Et je crois que par rapport à tout ça qui est encore largement expérimental, la seule chose vraiment nécessaire, c'est de passer le samedi matin à aller décrypter.
Ah oui, c'est... c'est peut-être une façon de conclure. Je sais pas si. Je pense qu'on a passé en revue.
Du monde virtuel, du monde synthétique, est-ce qu'il y a moyen de sortir et d'être complètement blanchi? À un moment, on peut sortir et dire ok, j'arrête.
Faut pas être oublié, right to be forgotten.
La mort existe.
Faut payer.
Alors, il y a deux niveaux dans
il faut payer pour sortir.
Il faut payer pour sortir.
Ou est-ce que c'est une secte où vous rentrez, vous êtes obligé dedans?
Non, mais t'as deux niveaux, tu peux te mettre vraiment dans une espèce de parenthèse, et donc inactif, ou carrément delete.
Voilà. Mais
il y a des agences qui savent ça.
Il n'y a pas le right to be forgotten.
Je crois qu'on arrive au terme, en tout cas en termes de temps réel, on y arrive. Je pense qu'on a passé en revue l'essentiel des questions. Je ne sais pas si on a encore une brûlante qui reste sur les lèvres de quelqu'un. Sinon, c'est le moment. Mais alors, j'aimerais simplement...
J'aurais aimé aborder quelque chose qui sort peut-être un peu de notre réflexion, mais vous avez parlé des évolutions sur le plan neurologique. Moi, je suis quand même très interpellée par cette distance vis-à-vis de la biologie, du physique, et le fait que je crois que pas mal de gens passent un nombre d'heures dans des états de conscience modifiés, quand ils sont accrochés à un jeu ou je ne sais pas quoi. Je ne dis pas si c'est bon ou mauvais, je n'en sais rien, mais je veux dire qu'il pourrait y avoir là une accélération du mode de fonctionnement du cerveau et du corps.
Les neurobiologistes travaillent beaucoup là-dessus, à percevoir les comportements neuronaux attachés à des facultés cognitives comparativement dans des individus qui ont un comportement parfaitement dans la vie quotidienne et des individus qui sont immergés dans le virtuel. C'est vrai que les potentiels évoqués ne sont pas les mêmes. Enfin, en tout cas, on n'attache pas de jugement de valeur à ça, mais c'est un constat qu'on peut
formuler.
De même que ce qu'on appelle le neuro... Ah, j'ai oublié le nom. Enfin, en tout cas, le boostage du cerveau qu'on met en œuvre aujourd'hui, l'augmentation du cerveau qu'on met en œuvre, bon, révèle que ça sert considérablement les activités qui comporte des automatismes, mais ça conduit à déserter les activités qui comportent de la réflexion, de l'affectif. C'est-à-dire toutes les stratégies de boostage du cerveau servent les automatismes et desservent le réflexif.
Alors, juste avant qu'on termine vraiment, pendant que vous peut-être vous remplissez, j'aimerais simplement vous demander à tous les deux, Pierre-François et Jean-Michel, en un mot ou quelques phrases, ce qui a été l'idée qui vous a le plus interpellé pendant cette séance, ou le fil que vous retenez, je ne sais pas comment formuler la question, mais si vous devez dire un dernier mot de ce que vous avez retenu ou de ce que vous emportez de ce matin, quel est-il? Je ne sais pas qui veut commencer. Mais...
J'ai une réponse simple.
Vas-y.
Pour le moment, j'ai une réponse très pratique parce que je la sors sur tous mes terrains de recherche. Je travaille beaucoup sur le droit des médias et donc particulièrement les nouveaux médias, donc comment le paysage médiatique est bousculé par la presse écrite versus Google, enfin tout ce genre de choses. Et il me semble que sur ces objets-là, on est vraiment dans des périodes d'apprentissage. On apprend aujourd'hui à décrypter ce nouveau paysage médiatique, les entreprises de presse cherchent leurs nouveaux modèles, etc. Et j'ai le sentiment que ce que je retiens et ce qui reste, moi, ma curiosité par rapport au monde virtuel, c'est ce travail de décryptage et d'apprentissage dans lequel on se trouve très exactement aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un processus d'apprentissage qui a bien besoin de certainement tous les réflexes les plus conservateurs et les savoirs les plus classiques pour les éclairer. C'est voilà, vigilance, décryptage, apprentissage.
Merci.
Moi, je sens que votre sérénité m'a un peu ébranlé par rapport à toutes ces questions. C'est-à-dire que j'ai perçu chez vous un manque de disposition au catastrophisme.
Un manque, un refus.
Ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt salutaire. Et je me suis expliqué...
Pour une fois, nous sommes d'accord.
Au gré de la discussion, je me suis expliqué pourquoi. C'est que finalement, ce que vous percevez globalement dans les technologies du virtuel, c'est la possibilité d'épurer, en quelque sorte, les problèmes que posent nos sociétés.
Et d'épanouissement.
Hein? Non, l'épuration au sens où, tout à l'heure, pendant la pause, on parlait des dessins de Léonard de Vinci. C'est avec vous qu'on en parlait. On disait les dessins de Léonard de Vinci sont apparus comme ces épures de réel qui nous donnent la possibilité de voir différemment le réel. Une espèce de grille de lecture qui simplifie et qui nous permet d'aller à l'essentiel. Bien, j'ai l'impression que dans l'esprit de bon nombre d'entre vous, c'est un petit peu ça, que le rôle que jouent les technologies cognitives, elles simplifient les relations entre les individus pour pouvoir mettre l'accent sur l'essentiel. Et de ce point de vue-là, elles nous donnent une efficacité concrète, tangible, dans la vie quotidienne. Mais maintenant, moi, le bémol que je mets, c'est que je me dis, est-ce qu'on a bien raison de vouloir s'habituer à simplifier la représentation de la réalité, et notamment de la réalité humaine? Est-ce que, à terme, on ne va pas s'habituer à considérer les relations entre les gens comme des relations entre des boîtes noires dans lesquelles ils rentrent des inputs, ils sortent des outputs? Et bon, je vis dans le monde des sciences cognitives, et dans les sciences cognitives, eh bien, de plus en plus, on réduit la psychologie purement et simplement à l'action et à la réaction de dispositifs un peu sophistiqués parce qu'il y a des heuristiques réflexives ou des choses comme ça, mais au bout du compte, ça n'a rien à voir avec la représentation que peut me donner la lecture de Marcel Proust, décrivant les conversations de salon, etc. Et où est la réalité? Donc, moi je vous dis, c'est bien d'épurer pour mieux comprendre et pour mieux agir, de modéliser, c'est très bien. Mais attention que ça ne s'impose pas comme une représentation hégémonique des relations humaines, parce que c'est pas ça, les relations humaines.
Voilà. Merci beaucoup à tous et bon week-end. Juste une petite question.